Europe Midi, Thierry Dagiral.
Il est midi et demi, soyez les bienvenus, c'est Europe Midi, 30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer en ce mardi 28 décembre. En plein Covid, l'hôpital craque, des agents qui manquent au CHU de Nice, grève illimitée au CHU de Rouen, des renforts attendus dans celui de Montpellier, le coup de gueule de Frédéric Valletoux, le président de la Fédération Hospitalière de France et mon invité dans un instant. Vous trouverez des autotests désormais en grande surface à titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier, vente autorisée ce matin. C'était son combat. Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe Leclerc, sera avec nous dans ce journal. C'est l'une des principales annonces de Jean Castex hier soir. Le télétravail quasi obligatoire, au moins 3 jours par semaine dès le 3 janvier. Réunion au ministère du Travail avec les partenaires sociaux ce matin. Nous verrons que c'est un véritable casse-tête pour de nombreux patrons. Dans Europe Midi également, nous reviendrons sur les réactions après les annonces gouvernementales hier soir. Restaurateurs et barman font grise mine, les profs sont inquiets et les artistes sont en colère. Reportage et explications à suivre. Mais d'abord, la tendance météo de votre mardi, Valérie Darmon.
Vent, pluie et douceur au programme du jour, Thierry. Un temps pluvieux qui s'installe sur le sud-ouest pour la journée. C'est pluie qui se décale vers l'est dans l'après-midi, donc à partir de maintenant, plus soutenu vers le Limousin, le Massif central et sur les Alpes. De la Normandie au nord-est, quelques averses qui sont attendues sous des rafales entre 60 et 70 km/h, 80 à 90 sur l'ouest des Hauts-de-France, tout cela dans une grande douceur.
Et le détail météo, ce sera juste avant 13h. Nous sommes entre deux fêtes en pleine vacances scolaires. Vos médecins de ville sont souvent absents. Conséquence, eh bien, les urgences craquent et les centres hospitaliers attendent au plus vite des moyens humains. Yasmina Katou.
Oui, les hôpitaux des quatre coins du pays sont touchés par le manque d'effectifs. Faute de bras, vous avez peut-être vu les urgences près de chez vous fermer leurs portes. C'est le cas dans certains hôpitaux de l'Oise, du Vaucluse, de l'Hérault, de Vendée. À Montaigu, justement, le CHU a dû fermer ses urgences tout ce week-end, faute d'urgence et de pédiatres. Depuis hier matin, le personnel soignant des urgences de l'hôpital de Rouen s'est mis en grève illimitée. La situation n'est plus tenable, dit Frédéric Louis, secrétaire général de la CFDT.
Les agents, ils n'en peuvent plus. Il y a eu toutes les vagues successives qui sont passées à l'hôpital. Le personnel soignant a toujours répondu OK, mais là, on arrive où vraiment que la coupe est pleine. Si on n'arrive pas à améliorer les conditions de travail en mettant le nombre d'agents suffisants par lit, on va arriver à décourager le personnel et ceux qui sont encore pleins de bonne volonté vont finir par partir. Il faudrait qu'il y ait au moins 15 à 20% d'effectifs en plus.
Dans ce CHU rouennais, une cinquantaine de lits sont fermés faute de recrutement. En attendant du personnel, l'hôpital comble les brèches avec le système des heures supplémentaires majorées.
Yasmina Katou du service Société d'Europe 1. Bonjour Frédéric Valletoux.
Bonjour.
Président de la Fédération Hospitalière de France, on vient de l'entendre, l'hôpital est sous tension. Encore plus en cette période de fête, jusqu'où vont pouvoir tenir les personnels hospitaliers ?
Écoutez, les personnels hospitaliers tiendront, mais dans des conditions, vous l'avez décrit, qui sont de plus en plus difficiles. Chaque nouvelle vague et chaque nouveau pic épidémique est une épreuve plus difficile pour des hospitaliers dont il faut avoir la lucidité de dire qu'ils sont moins nombreux aujourd'hui à l'hôpital qu'ils ne l'étaient avant la crise. Et par ailleurs, j'appelle à ce qu'on retrouve l'esprit de la première vague, c'est-à-dire l'esprit de solidarité qui a fait que beaucoup de professionnels de santé, même indépendants de l'hôpital, se sont mobilisés pour venir en aide aux services hospitaliers. On doit retrouver cet esprit de ce qui a été le printemps 2020 parce que cette nouvelle vague, avec les incertitudes liées aux variants Omicron, mais même indépendamment de ces incertitudes, cette nouvelle vague va frapper de plein fouet des organisations hospitalières déjà fatiguées.
C'est l'information de ce matin. Jean Castex annonce une prime de 100 euros par mois pour les infirmiers de soins critiques. Ça concerne 24 000 infirmiers et infirmières en réanimation. C'est suffisant ou pas ?
Ces professionnels font un boulot formidable et puis surtout, n'oublions pas que ces professionnels en sont sans doute au énième report de vacances depuis 2 ans parce qu'ils sont mobilisés depuis de très longues semaines. Donc c'est un geste de reconnaissance supplémentaire et tous les gestes de reconnaissance sont bons à prendre. Mais ça ne va pas suffire à faire en sorte que l'hôpital continue aussi à maintenir une activité normale parce que le danger de tout cela, c'est les déprogrammations massives, c'est-à-dire finalement ce fait de dire à des Français, revenez plus tard quand on aura la possibilité humaine de pouvoir vous traiter, parce que là on est accaparé par le Covid, mais c'est vrai que c'est des pertes de chance pour certains Français d'être déprogrammés, et donc il faut éviter absolument des déprogrammations massives comme malheureusement on est obligé de le faire pour tenir.
Frédéric Valtou de la Fédération hospitalière de France sur Europe 1, grand merci à vous, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Autre information de cette matinée, vous allez pouvoir acheter des autotests en grande surface. Ce sera à titre exceptionnel jusqu'au 31 janvier. Élise Dangean, la grande distribution réclamait cela depuis plusieurs mois.
Oui, et c'est donc une victoire pour toute la filière et un premier pas dans la porte. Après les masques, les distributeurs vont pouvoir vendre des autotests de plus en plus difficiles à trouver en pharmacie. Face à une demande sans précédent, le gouvernement a voulu diversifier les circuits d'approvisionnement. Et chez les distributeurs, c'est le branle-bas de combat pour être prêt, notamment avant le nouvel an. L'objectif pour beaucoup, c'est de commencer la commercialisation d'ici à la fin de semaine. Mais il faudra une dizaine de jours pour que les stocks soient complètement prêts. On va monter en puissance, dit Carrefour. Les circuits d'approvisionnement avaient été identifiés par les distributeurs et vont désormais pouvoir être mobilisés, indique la Fédération du commerce et de la distribution. En France et à l'étranger, par exemple, pour Carrefour, les distributeurs promettent quasiment tous de vendre à prix coûtant, moins de 2 euros le test chez Auchan, par exemple, contre 4 à 5 euros dans les pharmacies. Alors, il reste quelques questions en suspens. Est-ce que les autotests seront en accès libre ou est-ce que les distributeurs vont proposer une solution de conseil, car c'est l'argument des pharmaciens qui voulaient donc garder le monopole.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1, merci à vous. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour, bonjour à vous.
PDG, bien sûr, des centres commerciaux Leclerc. C'est une victoire pour vous. Vous en aviez commandé combien ?
Non, en fait, on pensait avoir l'autorisation depuis très longtemps, ouais. Puisque on en a, hein, puisqu'on en donne à notre personnel et puis aussi beaucoup d'associations caritatives qui organisent des repas gratuits, nous demandaient la possibilité d'accéder à ces autotests. Il ouais. faut savoir que les centres Leclerc en vendent au Portugal, il faut savoir que Aldi, Lidl en vendent en Allemagne, que Carrefour en vend dans d'autres pays. Donc il y avait une sorte d'incongruité française à ne pas vendre des autotests.
Ils seront disponibles quand au supermarché
Alors, chez Leclerc, déjà à partir d'aujourd'hui, dans les deux tiers des magasins, ouais. il y a un approvisionnement. Le prix aujourd'hui, c'est de 1,95. Il est vendu à prix coûtant. Il correspond à des factures d'achat antérieures. On rebooste des commandes pour en avoir d'autres et en avoir partout à la fin de la semaine. Dans tous les centres Leclerc. Mmh. Et l'idée, c'est que ce soit un test de confort. Hein. Faut pas me faire tenir un double discours. Ouais. Les tests, si vous avez une quelconque inquiétude, faut aller chez le pharmacien, au labo ou dans un centre de santé. Mmh. Mais là, c'est plus pour la vie familiale. C'est quelque chose qui sécurise. Moi-même, je le fais avec mes mmh. enfants. Là, je suis en vacances.
Donc, vous le dites, ils seront vendus à 1,95 dans les supermarchés Leclerc. Je voudrais que vous écoutiez la réaction de Gilles Bonnefond. C'est le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Écoutez.
C'est une faute politique. En termes de santé publique, on s'aperçoit que beaucoup de patients utilisent les autotests quand ils sont en contact ou quand ils sont symptomatiques. Alors que dans ces cas-là, il faut faire un test antigénique ou un test PCR. Et nous, en pharmacie, on n'arrête pas de faire du refus de vente parce que les patients en contact veulent faire des autotests. En grande surface, ils les achèteront sans aucun conseil. Et donc, on va perdre la traçabilité du suivi de l'épidémie. Parce que si des patients en contact ou symptomatiques utilisent des autotests, ils ne sont en aucun cas enregistrés. Et on perd toute l'efficacité du suivi et de l'enregistrement. C'est une erreur.
Michel-Édouard Leclerc, est-ce que vous allez conseiller, expliquer comment effectuer ces autotests aux clients ?
Mais non, bien évidemment. Par définition, un autotest est fait pour être fait en famille. Ce sont des tests de confort. Mais le discours qui est tenu là, j'y adhère. Hein. Si vous avez des symptômes, il faut aller chez le pharmacien. Ces querelles corporatistes, c'est assez con en France. Pourquoi vous imaginez que les autotests sont partout libres en Allemagne ou au Portugal ? Vous pensez que les pharmaciens allemands ou portugais y ont trouvé à redire. Je pense qu'il ne faut pas en faire un truc idéologique, ni même un truc d'argent. C'est pour ça que d'ailleurs tous les distributeurs l'ont annoncé, ils le vendront à prix coûtant. Dès que vous avez un doute, vous allez chez le pharmacien. Mais si vous avez une soirée, un truc à organiser dans la limite justement du nombre de personnes autorisées, c'est pas mal d'avoir des autotests chez soi.
Restez avec nous, Michel-Édouard Leclerc. C'était la grosse annonce d'hier soir par le Premier ministre. Le télétravail quasi obligatoire à partir du 3 janvier, 3 jours minimum par semaine. Discussion ce matin entre les partenaires sociaux et la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui annonce des sanctions plus dissuasives. Elle va proposer un amendement au projet de loi. Alors comment appliquer ce télétravail dans une grosse entreprise de logistique où toutes les tâches se font essentiellement sur place? Exemple avec vous, Stéphane Place, à Bassins, près de Bordeaux.
Oui, alors GT Logistique, ce sont 1200 salariés répartis sur 45 sites. C'est un gros prestataire qui va dans le milieu industriel, dans les usines, assurer la logistique, l'emballage, la réception, les contrôles qualité, l'expédition au siège. Ici, dans l'agglomération bordelaise, le télétravail s'est déjà appliqué dans les bureaux d'études notamment. On a pris l'habitude depuis longtemps des visios. Seulement voilà, dans cette grosse entreprise que préside Eric Sarra, il ne faut pas se leurrer, cela ne concernera au final qu'une toute petite partie des employés.
C'est moins de 100 personnes sur 1200 personnes qui pourront se mettre en télétravail. C'est assez faible. Ce qui est beaucoup plus difficile et pratiquement impossible, c'est le télétravail sur les sites de production. Avec des machines, du matériel, là, il faut renforcer les mesures de protection individuelle. Mais là, le télétravail ne sera pas du tout possible. On reste assez optimiste parce que les mesures prises permettent de limiter. En tout cas, dans l'entreprise, je trouve que les mesures prises sont mieux respectées que dans la vie sociale de tous les jours.
Après les fêtes, lundi prochain chez GT, plus que jamais va être renforcé le port du masque, le respect des sens de circulation. Et pas question, même si c'est très sympa, de remettre en route la distribution de boissons dans l'espace des machines à café que le télétravailleur, lui, peut savourer tranquillement devant l'écran de son ordinateur.
Stéphane Place, correspondant Europe 1 dans le Sud-Ouest. Michel-Édouard Leclerc, chez vous, dans la grande distribution, comment vous allez appliquer ce télétravail ?
Alors, assez peu de personnel de la grande distribution sont concernés, puisque tout le personnel en magasin, c'est physique, hein, ou même dans les entrepôts, c'est la logistique. Donc, on pratique très peu le télétravail. Le télétravail, ça concerne les sièges sociaux de nos boîtes, où là, l'application de la réglementation ne pose pas de problème en soi. Mmh. Et puis aussi les fonctions administratives, les fonctions de comptabilité.
Vous dites quoi, du coup, à la ministre du Travail, Elisabeth Borne ?
Non, je trouve que leur approche est assez pragmatique. Hein. Je trouve qu'ils prennent beaucoup de précautions pour ne pas casser l'activité économique. En même temps, qu'est-ce qu'ils prendraient si les politiques ne prenaient pas des dispositions de ce type-là, sur le plan sanitaire? Et ils sont toujours dans le collimateur de gens qui veulent leur faire des procès pour inactivisme. Moi, je trouve que là, actuellement, l'approche du télétravail, elle est très pragmatique. On a un bon dialogue, que ce soit entre partenaires sociaux ou avec l'administration. Ça, en tout cas, on n'a pas de difficulté particulière à appliquer.
Le PDG du groupe Leclerc sur Europe 1 ce midi. Grand merci à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Un mot de politique avant de continuer à voir les réactions, parce que ça change la donne. Bonjour Alexandre Chauveau.
Bonjour.
On ne parle pas des sujets de la prochaine présidentielle, des autres grands sujets. Et finalement, eh bien c'est le président Macron qui a la main.
Oui, beaucoup de candidats misaient sur la fameuse théorie de la dinde de Noël, vous savez, qui consiste à marquer les esprits dans les semaines qui précèdent le 25 décembre pour tenter d'être au centre des conversations au moment du repas de famille. Oui, mais voilà, un thème a supplanté tous les autres. Il s'appelle Omicron et cela joue effectivement en faveur du chef de l'État qui monopolise ainsi l'espace politique. Alors, il y a bien sûr des critiques. Valérie Pécresse a demandé par exemple le report d'une semaine de la rentrée scolaire. Le PS réclame, lui, la vaccination obligatoire, tandis que Yannick Jadot plaide pour le retour des tests gratuits. Des critiques, certes, mais à la marge, car le risque serait d'apparaître comme celui ou celle qui n'aurait pas conscience de l'importance de l'enjeu en osant aborder d'autres sujets. Et cela, l'exécutif en joue. Hier soir, les annonces ont été largement dramatisées. On sait notamment que la solution d'un couvre-feu a été envisagée pour la soirée du Nouvel An, sans être finalement retenue. Le contexte semble donc pour l'instant politiquement favorable à Emmanuel Macron, mais la situation pourrait tout aussi bien se retourner contre lui si l'épidémie et les restrictions venaient à s'aggraver dans les prochains mois.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Restez avec nous, on va continuer à avoir les réactions au lendemain de ces annonces gouvernementales. On va voir que le retour des jauges, l'interdiction d'être debout, eh bien ça fait beaucoup de mécontents. On va parler de l'école également avec des professeurs en colère. Bon appétit à tous, à tout de suite sur Europe.
Europe Midi. Thierry Dagiral.
Une heure moins le quart passé, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. On va continuer à faire le tour des professions, les réactions après les annonces gouvernementales d'hier soir, avec certes le soulagement pour les restaurants et bars qui vont rester ouverts, mais avec l'interdiction de consommer debout au comptoir. Reportage à Marseille, Stéphane Burgat.
Une activité en berne dans sa brasserie des Templiers. Au Vieux-Port, Frédéric Jean-Jean préserve un réveillon de la Saint-Sylvestre qu'il estime déjà perdu.
Mais le mal est déjà fait. Sur le 31, ce qui s'est passé, c'est que les gens nous ont appelés en réduisant les jauges, parce que, avec les annonces du gouvernement, ils ont préféré éviter de se retrouver à plusieurs en famille. Et là où, au début de mois, j'avais des commandes de plateau pour 10-12 personnes, c'est tombé à 4 personnes. Donc ça fait une baisse de commandes de 30%.
Au pied du Palais du Pharo, le luxueux hôtel Radisson Blu n'affiche que 16% d'occupation. Le directeur Lionel Vandenhout espère tirer profit de ce week-end à la faveur d'une météo clémente et de réservations de dernière minute. Mais ce qui l'intéresse et ce qui l'inquiète le plus, c'est l'après 31 décembre.
La grosse reprise du mois de janvier, février et mars est extrêmement importante pour nous. Donc on croise les doigts pour que cela soit sauvé aussi. Ah, ça représente une grosse partie de l'année 2022, donc sur un premier trimestre, 60% du chiffre d'affaires.
Et ces craintes se basent sur la prochaine échéance, le Conseil de défense du 5 janvier. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
L'interdiction d'être debout dans le wagon restaurant des trains également. Comment vont se passer alors vos retours de vacances dans les transports en commun? Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, est en ce moment à Praz-sur-Arly, c'est près de Megève en Haute-Savoie. Et vous le suivez, Jean-Luc Bougeon, hein?
Oui, et au pied des pistes de ski, eh bien, le ministre a donné des précisions concrètes sur la façon dont vont se dérouler les retours en train des vacanciers samedi et dimanche. Alors effectivement, on ne pourra pas rester debout dans le wagon-restaurant, mais de toute façon, le wagon-restaurant sera fermé. Hein, c'est une des conséquences des décisions d'hier. Donc plus de petits cafés ou de plats réchauffés à déguster dans le train. Il faudra en permanence rester assis à sa place et porter le masque, mais boire et manger sera tout de même possible. Pour peu que cela ne dure pas des heures, les personnels seront compréhensif et pragmatique, assure Jean-Baptiste Djebbari.
Très concrètement, sur les trains à longue distance, les wagons-bars seront fermés. On va être évidemment très pragmatique et faire preuve de discernement sur le sujet. Il ne serait évidemment pas normal, par exemple, d'interdire aux gens de boire, vous voyez, ou à une mère de donner de la nourriture à son enfant. Donc on va faire évidemment beaucoup de pédagogie et faire preuve de discernement. Nous sommes en train de, comme on dit dans le jargon, d'opérationnaliser ces mesures.
Voilà, les nouvelles règles sont donc encore en train d'être rédigées. Alors, autre nouveauté dans les transports, le masque va devenir obligatoire aussi pour les enfants de 6 à 11 ans, à l'image de ce qui se fait déjà dans les écoles. Mais ce n'était pas le cas jusque-là, mais cette mesure ne sera effective qu'à partir de lundi prochain, donc elle ne s'appliquera pas ce week-end. Plutôt, il faut y penser pour les vacances de février. Enfin, en ce qui concerne les avions, notamment les longs courriers, les règles ne changent pas. Masque obligatoire sur toute la durée du vol, sauf sur les temps bien précis de restauration. En la matière, il n'y a donc là pas de durcissement.
Merci pour ces précisions, Jean-Luc. Jean-Luc Bougeon, correspondant Europe 1 dans la région lyonnaise. Autre profession en colère ce midi, les enseignants. Les écoles rouvriront donc bien lundi prochain. Il n'y aura pas de distanciel dans les collèges et lycées, dit le Premier ministre hier soir. Bonjour Jean-Rémy Girard.
Bonjour.
Président du syndicat national des lycées et collèges. Vous craignez qu'Omicron entraîne plusieurs absences de profs au mois de janvier?
Oui, alors syndicats, lycées, collèges et écoles aussi.
Ouais.
Oui, on craint évidemment qu'il y ait beaucoup d'enseignants soit malades, soit cas contact, et beaucoup d'élèves d'ailleurs également, soit malades, soit cas contact. Donc on a un très fort risque d'avoir des fermetures de classes, sachant qu'on n'a absolument pas les capacités pour remplacer les enseignants qui seront absents.
Ça veut dire que vous réclamez des moyens humains, mais aussi matériels, hein?
Oui, des moyens humains et matériels, et ça fait un an et demi que le SNALC et beaucoup d'autres acteurs les réclament, ces moyens humains et matériels, pour justement anticiper ce type de situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, rien. On n'a pas de la capacité à réellement remplacer les enseignants absents. On n'a fait à peu près aucun travaux en matière d'architecture dans des salles de classe dont les fenêtres ne s'ouvrent pas ou s'ouvrent très peu. On a un nombre absolument dérisoire de capteurs de CO2 pour savoir si notre aération est suffisante ou non. Donc on est vraiment... voilà, l'éducation nationale, on a vraiment joué le coup du... L'école doit rester ouverte et tout le monde est d'accord avec ça. En fait, personne ne veut fermer l'école.
Ouais.
On a bien compris que ce n'était pas une bonne idée.
Mais pour vous, l'école n'est pas...
C'est nous les enseignants qui avons fait le premier confinement à distance.
Mais vous dites que l'école n'est pas sécurisée, pas assez sécurisée en fait.
Oui, Très clairement, on a vraiment été sur cette idée que déjà le virus se transmet pas ou pas beaucoup à l'école. C'est des choses qui ont beaucoup circulé, y compris avec des variants beaucoup plus contagieux comme le variant Delta, où on voyait la présidente de la Société française de pédiatrie dire encore en novembre que les enfants de moins de 12 ans étaient non contagieux. Et donc, ça a permis finalement de ne rien faire globalement à l'école en disant on met les masques, on ouvre les fenêtres et ça va passer.
Jean-Rémy Girard, les élèves du primaire où un cas positif a été diagnostiqué devront présenter au moins 2 tests négatifs à plusieurs jours d'intervalle. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Ça va assez loin?
Alors, d'après les dernières infos que j'ai vues, c'est pas sûr que ça se fasse, parce qu'apparemment, ce qu'a déclaré le ministre ce matin n'est pas validé actuellement au niveau gouvernemental, donc on verra ce qu'il sera. En fait, on est sur la stratégie des tests aux primaires, qui au départ était un système très simple, c'est il y a un cas positif, on ferme une classe. Oui. Forcément, quand le virus circule beaucoup, on ferme beaucoup de classes et c'est difficile. Donc on a mis en place une stratégie dont pourtant les retours expérimentaux étaient mauvais, qui est la stratégie où on réactive, où on teste tous les élèves de la classe quand il y a un cas dans la classe. Sauf qu'on les teste actuellement à J0, enfin le jour où on découvre le cas, mais le test à J+7 n'est pas obligatoire. Ouais. Donc, ce qui fait que les élèves ils peuvent se révéler positifs entre J+1 et J+6, très clairement. Donc, je pense que le ministre voulait parler de ça, de fait, notamment de faire un test 7 jours après. On verra si ce sera fait. Ce serait déjà mieux que ce qu'on a actuellement. Ouais. En revanche, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des élèves entre J0 et J+7? Parce que si c'est pour les laisser en cours, c'est pas non plus très efficace. Donc, ça veut dire qu'en fait, techniquement, dans ces cas-là, on ferme les classes.
Le président du SNALC, Jean-Rémy Girard sur Europe 1. Grand merci à vous, merci beaucoup.
Merci à vous.
On va s'intéresser à présent au milieu du spectacle, des concerts debout annulés, des jauges réduites à 2000 en intérieur et 5000 personnes en extérieur. Mais ce qui agace les artistes, c'est que les meetings politiques, eux, sont maintenus et Marie Jiquel, ça les a inspirés les artistes. Hein.
Oui, bonjour Thierry, les artistes préfèrent en rire qu'en pleurer, ils se lancent en politique dans la course à la présidentielle. Alors bien sûr, Thierry, c'est ironique pour faire passer leurs concerts, leurs spectacles pour des meetings politiques et donc pouvoir se produire.
Ben écoutez, comme apparemment les meetings politiques ne dépendront pas des jauges, il pourrait y avoir le nombre de personnes, j'annonce, je me présente aux élections présidentielles. Voilà. Donc gardez vos places de spectacle et ce sera super.
Le comédien et humoriste Jarry que vous venez d'entendre, oui. Julien Doré, Oshi, Eddy de Préto, Grand Corps Malade, ils ont tous réagi sur le réseau social Instagram. Alors chacun y est allé de son petit montage photo, posant en photo officielle à l'Élysée, proposant déjà un programme. Certains artistes invitent aussi les spectateurs à venir avec une chaise pliante dans la fosse des salles. Alors voilà, plus sérieusement, derrière la blague, nos artistes expriment aussi leur ras-le-bol et leur incompréhension, leur lassitude. On en a vraiment marre, annonçait la chanteuse Oshi sur son compte.
Merci Marie-Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. On va terminer avec le sport et le retour là aussi des jauges dans les stades, même jauge que pour les spectacles. Mais pour cela, il faut qu'il y ait bien sûr des matchs. Cédric Chasseur, les reports se multiplient et cela à cause des cas de plus en plus nombreux au sein des équipes.
Effectivement, il n'y a que la Ligue 1 qui parvient jusqu'à maintenant à éviter les reports. Mais souvenez-vous tout de même, juste avant la trêve, Bordeaux, le PSG, Reims et Angers avaient annoncé des cas positifs dans leur rang. En rugby, le top 14 a vu son Boxing Day être amputé de 4 matchs sur les 7 programmés dimanche et lundi. C'est la même chose en basket, pas de match hier soir par exemple entre Boulogne-Levallois et Le Portel. Le Covid s'invite partout, y compris au sein de l'équipe de France masculine de handball qui tente de préparer tant bien que mal l'Euro mi-janvier. Sur les 20 appelés, 8 sont positifs plus un membre du staff, ce qui complique la vie du sélectionneur Guillaume Gilles.
La problématique pour nous, elle est avant tout sanitaire, elle est sportive parce qu'on n'arrive pas à s'entraîner dans les conditions optimales, mais c'est le lot des aventures avec le Covid. On est en train de s'adapter, de trouver des protocoles qui nous permettent de continuer à avancer et de préparer au mieux cette compète.
Voilà, on verra quel impact cela aura sur les performances des Bleus en Hongrie. En tout cas, sans l'application d'un protocole strict à l'arrivée des joueurs, cela aurait pu être pire. On a évité une petite catastrophe, a d'ailleurs concédé le médecin de l'équipe de France.
Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. La météo à présent, Valérie Darmon, et un ciel encore globalement gris. Hein.
Effectivement, avec pas tout à fait 50 nuances de gris, mais pas loin. Au nord de la Loire, le ciel est un peu plus variable que ces derniers jours, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux assez denses et pluvieux, surtout cet après-midi sur les Hauts-de-France et l'est du bassin parisien. Le vent qui souffle aussi davantage aujourd'hui le long des côtes de la Manche, à 90 sur la côte d'Opale, la Seine-Maritime et la mer du Nord, et dans les terres d'un petit tiers nord à 70. Le ciel va rester gris et bâché sur les régions du centre, le Bordelais, le Limousin et l'ouest du massif central. En montagne aussi, le ciel est bouché, il pleut en dessous de 1700 à 1800 mètres d'altitude. Du Roussillon aux Alpes-Maritimes, le temps est sec, le soleil voilé, le Mistral et le vent d'ouest soufflent à 60 km/h sur le littoral méditerranéen. Les maximales se maintiennent jusqu'au week-end prochain dans la douceur et elles nous feront vivre un des 31 décembre les plus doux depuis 1947. Aujourd'hui, elles sont comprises entre 10 et 14 sur le nord de la France et dans le centre, 12 à 18 dans le sud et jusqu'à 19 au sud de la Garonne.
Eh ben, merci beaucoup Valérie Darmon, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Dans un instant, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil pour La France Bouge. Bel après-midi à tous sur Europe 1, bien sûr. Europe 1.